BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Pot.
Il est 18h, bienvenue dans Les Experts sans frontières. Car oui, nous sommes vendredi, donc ils seront là dans une dizaine de minutes, nos Experts sans frontières, pour parler de quoi? Devinez, essentiellement des premiers pas de Donald Trump comme président des États-Unis. Une pluie de décrets, des allers-retours sur la question des droits de douane, en tout cas dans le narratif. On parlera de tout ça, bien évidemment. L'Europe qui cherche toujours la bonne réponse et cherche à imposer son style, ou plutôt ses styles, parce que c'est la tendance du moment. On parlera du conflit ukrainien. On est plutôt parti pour négocier 100 jours plutôt que 48 heures. Et puis, on parlera bien sûr de l'Europe et de l'Allemagne, parce qu'on est à un mois désormais des élections législatives. Voilà le programme avec nos experts dans des minutes. Tout de suite, c'est le journal, bien sûr, sur BFM Business.
BFM Business. L'info éco.
Donc oui, quand même, un mot de Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid sur ses intentions avec la Chine. Lundi, vous savez, il parlait de droits de douane à 10%. Hier soir, sur la chaîne américaine Fox News, il a reconnu qu'il pourrait y renoncer, propos auquel la diplomatie chinoise a d'ailleurs répliqué dans la foulée. Écoutez cet échange à distance.
Nous avons un très grand pouvoir sur la Chine et c'est celui des droits de douane. Et ils n'en veulent pas et je préférerais ne pas avoir à les utiliser. Mais c'est un pouvoir énorme sur la Chine. La Chine reçoit une grande partie de son argent des États-Unis. Elle utilise cet argent pour construire son armée. C'est fou, non ?
La coopération économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. La Chine n'a jamais cherché à dégager un excédent commercial. Bien qu'il existe des différences et des conflits entre la Chine et les États-Unis, les intérêts communs et l'espace de coopération entre les deux pays sont énormes. Les deux parties peuvent renforcer le dialogue et les consultations à ce sujet.
Voilà la réponse dans la foulée, vous venez de l'entendre, de la porte-parole chinoise du ministère des Affaires étrangères. On en parlera avec nos experts bien sûr tout à l'heure. Et puis la Russie a répondu aujourd'hui à Donald Trump qui avait expliqué hier, vous savez, qu'il espérait faire baisser le prix du baril de pétrole pour pousser la Russie à lâcher du lest sur l'Ukraine. C'est Vladimir Poutine lui-même qui lui a répondu qu'une baisse du prix du pétrole serait mauvaise à la fois pour Washington et pour Moscou. Il se dit prêt, cela dit, Vladimir Poutine, il l'a dit aussi, à parler avec Donald Trump du conflit ukrainien. Et puis l'Europe, elle aussi, se pose beaucoup de questions. À quelle sauce elle va être mangée sur la question des droits de douane? Ça, pour l'instant, Donald Trump n'est pas sorti du bois. L'autre sujet de préoccupation pour les Européens, ce sont les ambitions clairement affichées de Trump dans le domaine spatial. On l'a entendu lundi dernier. Écoutez ce que nous disait aujourd'hui depuis Davos le patron de l'Agence spatiale européenne. Il ne veut pas lâcher le morceau du tout. Écoutez son point de vue.
L'Europe est en fait très bonne. L'Europe est excellente. Nous avons une technologie de spatiale qui est parmi les meilleures dans le monde.
L'Europe est très bonne, voire excellente. Elle a une technologie spatiale pratiquement la meilleure au monde. On n'en parle pas assez car SpaceX nous fait de l'ombre. Mais l'Europe possède d'excellents atouts. Copernicus, Galileo, Ariane 6, les missions spatiales scientifiques, Euclide, Jules, beaucoup d'autres. Copernicus est la meilleure opération d'observation dans le monde. Galileo a le signal le plus précis dans le monde, donc l'Europe est excellente. Bien sûr, il y a quelques domaines sur lesquels on doit encore travailler et on le fait, parce qu'on doit mettre notre énergie, nos connaissances ensemble pour que ça marche. Mais il y a une autre chose qui est vraie d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a tellement plus d'argent dépensé dans le secteur public et puis des entreprises comme SpaceX et d'autres, et l'Europe doit faire face à tout ça. Ça veut dire que l'Europe a besoin de plus d'argent public, de moyens dans l'Agence spatiale européenne pour s'assurer que cette excellence reste en Europe. Et on peut faire en sorte que de nouvelles compagnies s'installent en France au lieu d'aller ailleurs. Donc on a besoin de programmes attractifs.
Voilà, n'enterrons pas trop vite l'Europe spatiale. Joseph H. Barrer, le patron de l'Agence spatiale européenne, qui répondait depuis Davos aux questions de Nathan Cocampo. 18h04, dans l'actualité des entreprises, on voulait vous parler. On a déjà parlé d'ailleurs il y a quelques semaines de ce mariage entre Nissan et Honda, qui est toujours en discussion. Problème, la presse japonaise affirme que Mitsubishi, qui devait être dans la boucle, préférerait finalement rester en dehors de l'opération. Astrid Olivier nous raconte ça.
C'était la fusion de la dernière chance pour Mitsubishi, Nissan et Honda. Un moyen pour les trois constructeurs d'obtenir la troisième place sur le marché automobile mondial avec 8 millions de véhicules vendus l'année dernière. Mais l'alliance ne semble pas convenir au plus petit des trois. Mitsubishi préfère renforcer ses parts de marché en Asie du Sud-Est. Sa crainte, se faire absorber par son principal actionnaire Nissan qui détient un quart de son capital et par le numéro 2 de l'automobile japonais Honda. Ce projet de fusion devait permettre aux aux trois constructeurs de rattraper leur retard sur le marché des véhicules électriques, aujourd'hui dominé par BYD et Tesla, en partageant équipements et usines d'assemblage. Mais la cure d'austérité annoncée par Nissan en fin d'année dernière, avec 9000 postes supprimés, et la dépendance de Mitsubishi face à ses deux concurrents renforce les déséquilibres dans le projet de regroupement. La fusion serait en réalité un rachat pur et simple des deux constructeurs par Honda. Verdict en juin prochain.
Astrée Olivier, il se passe des choses dans le secteur auto, donc au Japon. Il se passe aussi des choses dans le secteur bancaire en Italie. On a appris aujourd'hui que la banque Monte dei Paschi avait lancé une énorme offre de rachat sur Mediobanca, une offre à plus de 13 milliards d'euros. C'est une nouvelle annonce dans un secteur bancaire italien qui est en pleine ébullition depuis quelques temps. Caroline Morisseau.
Sur le papier, l'opération a de quoi surprendre. Monte dei Paschi a longtemps été considéré comme le mauvais élève du secteur bancaire italien, jusqu'à son renflouement par l'État en 2017. Mediobanca, c'est au contraire le bon élève qui a résisté à toutes les crises et il pèse plus lourd que Monte dei Paschi. Plus de 12 milliards et demi d'euros de capitalisation contre un peu moins de 9 milliards. C'est pourtant Monte dei Paschi qui veut s'offrir sa concurrente pour un peu plus de 13 milliards, soit une prime de 5% par rapport au dernier cours avant l'opération. Un prix trop bas, juge un analyste. Mais les discussions ne font que commencer et l'offre pourrait bien être soutenue par le gouvernement italien. Voilà longtemps que Rome cherche à adosser Monte dei Paschi, dont il est encore actionnaire, pour créer une troisième grosse banque dans le pays. Jusqu'ici, c'est un rapprochement avec un autre établissement italien, Banco BPM, qui était évoqué, jusqu'à ce qu'UniCredit jette son dévolu sur cette dernière. Rome, du coup, s'y opposait. Aujourd'hui, l'éventualité d'un mariage entre Monte dei Paschi et Mediobanca fait retomber la pression. Selon un analyste, cela renforce la probabilité que le gouvernement ne s'oppose plus à un deal entre UniCredit et BPM.
Caroline Morisseau, côté entreprise toujours, mauvaise nouvelle pour Airbus qui va fermer sa compagnie de transport de fret par avion qui empruntait ses gros avions surnommés le Beluga, qui sont des dérivés de la 330, ce sont des appareils qui étaient entrés en service en 1995. En France, c'était attendu, Bruno Retailleau annonce qu'il va réformer la fameuse directive Valls qui permet au préfet de régulariser tous les ans aux alentours de 30 000 personnes sans papier pour des motifs soit familiaux, soit professionnels. On sait qu'on touche là un sujet sensible avec d'énormes pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité, notamment la restauration ou le BTP. Par ailleurs, puisqu'on parle restauration, on voulait dire un mot de ce qui sera le week-end prochain à Lyon, le plus grand rassemblement au monde des métiers de l'alimentation. C'est le salon CIRA. C'est là tout simplement qu'il faut être pour faire de très belles affaires. Reportage Simon Tannenbaum avec les équipes de BFM à Lyon.
Un rendez-vous pour tous les métiers de l'alimentation. Le CIRA accueille 200 000 professionnels qui viennent dénicher les dernières innovations et tendances culinaires, explique le directeur du salon, Luc Dubanchet.
C'est une espèce de grand magasin dans lequel les visiteurs, professionnels encore une fois, vont pouvoir chercher tout ce qui est utile à la construction de leur établissement, de leur restaurant, de leur futur projet.
Parmi les visiteurs, il y a ce saisonnier grossiste qui a déjà identifié les futurs produits qu'il présentera à sa clientèle.
J'importe beaucoup de produits que je revends en France, de toute l'Europe, et du coup j'ai vu des produits qui je pourrais éventuellement mettre dans mes gammes d'offres clients.
Ils sont 4700 exposants à la recherche de nouveaux contrats. C'est le cas d'Arnaud Baudouin, dirigeant d'Abica. Il propose des dates importées directement d'Arabie Saoudite.
Très important d'être ici aujourd'hui au CIRA à Lyon. C'est la capitale Lyon de la gastronomie française.
Et au coin d'une allée, des innovations, une imprimante 3D pour pâtissier à 25 000 euros ou encore ce robot serveur présenté par Anis Ben Mahmoud.
C'est le lien entre la cuisine ou la plonge et la salle, de manière à ce que le serveur redevienne un maître d'hôtel. Il a 2-3 pas pour déposer, une fois qu'il a débarrassé les plats, sur le robot, appuyer sur un bouton, et là, le robot, il va en plonge.
Les innovations présentées dans le salon sont ensuite scrutées dans le monde entier. Cette année, un exposant sur 4 est étranger.
Voilà, le CIRA, ce week-end à Lyon, le plus grand rassemblement au monde des métiers de l'alimentation. 18h09 sur BFM Business. Les marchés, tout de suite. Et en direct.
Votre rendez-vous avec La Française, un acteur majeur de la gestion d'actifs qui conjugue objectifs de performance et investissement responsable.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
C'était une bonne semaine sur les marchés. Ça aurait pu zigzaguer, non?
Non, poursuit sur la lancée. Vous vous rendez compte? 9 séances de hausse consécutives. On n'avait pas vu ça depuis 2015.
Eh ben.
Vraiment une très belle tendance encore sur l'ensemble de la semaine. On gagne 2,8% pour un CAC 40. qui encore a réduit un petit peu la vapeur en fin de séance. On a fini quand même dans le vert, plus 0,44% à 7927 points, mais l'Eurostock 50 lui a terminé à l'équilibre et on a fait moins 0,08% à Francfort. Et toute la semaine, on a vu des secteurs qui prenaient le relais les uns des autres. On a eu la techno en début de semaine, on a eu ensuite l'électricité, les Legrand, les Schneider Electric qui ont signé des plus hauts historiques, des valeurs industrielles, Safran aussi, record historique cette semaine. Et puis là, aujourd'hui, c'était la journée du luxe, avec Burberry qui a rassuré avec ses résultats. Alors bien sûr, Kering a gagné 4,5% à 258,30€. La plus forte hausse du CAC, elle est pour Pernod Ricard, qui gagne 4,5% à 110,50€. Ben ouais, tout ça est plutôt de bon augure. Après les bonnes performances de Burberry, de Richemont aussi la semaine d'avant, ben on attend évidemment LVMH. Ce sera le verrou de tendance de la semaine prochaine. Et peut-être cette confirmation que, oui, il y en a marre de parler de la Chine et de la déprime du marché chinois dans le secteur du luxe. Il y a le reste du monde à alimenter en produits de luxe. On a Burberry qui dit que ça marche très bien côté marché américain. On va voir ce que nous dit LVMH. Et puis du côté des valeurs à la baisse, pas grand-chose, mais on a Vinci qui perd 1,5% à 102,35€. Bureau Veritas, moins 26 à 29,84€. Le CAC donc termine cette très belle semaine par une hausse de 0,44%, 7927 points. Et l'euro s'est bien renforcé par rapport au billet vert. On cote à 1,0517$.
Belle semaine, et c'était pas gagné, référence à qui vous savez, bien sûr, évidemment. Le marché américain, Wall Street à la mi-séance. On est à la mi-séance, on perd 0,13% sur le CAC, sur le Dow Jones, pardon. 44 505 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui qui est à l'équilibre, 20 044 points. Tout ça à la mi-séance. Merci Antoine, à lundi.
À lundi.
Avec plaisir, 18h11. Nos experts sans frontières arrivent bien sûr dans quelques minutes sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 19h pour parler de quoi ? Essentiellement des premiers pas de Donald Trump, une semaine à peine après son investiture, évidemment. À tout de suite.
BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, 18h15, ils sont là. Bien sûr, comme tous les vendredis, nos experts sans frontières pour refaire l'actualité française, européenne, internationale jusqu'à 19h sur BFM Business. Daniele Zappala est avec nous. Bonsoir Daniele.
Bonsoir, buonasera.
Buonasera, journaliste italien au quotidien à venir. Et Grégor Wachinski est avec nous. Bonsoir Grégor, correspondant du journal Handelsblatt à Paris. Denis Jacquet, de passage à Paris. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Bienvenue, entrepreneur, président du mouvement Day One, et Benaouda Abdedaïm, bien sûr, notre éditorialiste international. Bonsoir Benaouda.
Bonsoir.
Et du Globe, bien sûr, la newsletter internationale de Benaouda. Vous allez vous inscrire sur le site bfmbusiness.com ou alors vous flashez le petit QR code que l'on va voir dans un instant. Le voici, vous pouvez le flasher, mais on vous le remontrera bien sûr à la fin de l'émission pour pouvoir vous abonner. Bien, messieurs, premier jour de règne, évidemment marqué par l'investiture de Donald Trump, une pluie de décrets fracassants sur bien des sujets qui ont donné le ton de la présidence. Avant de rentrer en détail, je vous demanderai un petit tour de table. Écoutons quand même Donald Trump et vous me direz si vous le trouvez égal à lui-même dans la foulée. C'était il y a quelques heures, nouvel appel aux entrepreneurs du monde entier, évidemment.
My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America.
Le message que j'adresse à toutes les entreprises du monde entier, c'est venez produire aux États-Unis. On vous offrira les taux d'imposition les plus bas au monde. On est en train de les faire baisser très vite, d'un niveau qui était déjà très bas. Maintenant, si vous fabriquez vos produits ailleurs, c'est votre droit.
Then very simply you will have to pay a tariff.
Mais il faudra payer des droits de douane avec des taux qui vont varier, mais qui permettront aux États-Unis de récolter des milliers de milliards pour faire baisser notre dette. Sous mon administration, il y aura de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises, de nouvelles usines ici dans ce sublime pays que sont les États-Unis.
Voilà, ça c'était il y a quelques heures. D'un mot vraiment, mais plus sur la forme, et puis on va rentrer dans le fond après. Comment est-ce que vous l'avez trouvé sur ses premiers jours? Égal à lui-même, en dessous, comment, dans un, je sais pas, un mot de dit pour.
Ça fait quand même un moment qu'il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il a dit. En fait, je veux dire, pour. Après tout jugement mis à part, j'aimerais tellement qu'on puisse dire la même chose des politiques européens ou plus spécifiquement français, dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils disent, mais que de toute façon, ils font souvent le contraire de ce qu'on a estimé qu'ils pourraient peut-être faire. Non, c'est clair, c'est. Moi, je veux dire, on aime ou on n'aime pas le style, mais au moins, on sait où on va, on sait comment on y va. Bon. Après, évidemment, il y a plein d'incertitudes sur le fait, dans le diable est dans le détail.
Donc, alors, justement, on va y venir dans un instant. Sur la forme, on reste sur la forme. Daniele, d'un mot.
On voit bien qu'il est dans un sentiment de toute puissance. cela est lié bien sûr aussi au fait qu'il contrôle toutes les institutions actuellement.
Évidemment. Grégoire, donc.
Et bien sûr, rien de surprenant, surtout dans son comportement, dans son positionnement aussi très très brusque envers le monde, envers l'Europe, donc ça ne m'a pas du tout surpris.
Oui. Ben Aouda, un mot peut-être pour la forme.
Un mot pour dire que le discours d'investiture, c'est déjà très très loin.
Oui.
Et déjà de se référer à ce qu'il a dit à Davos et sur Fox News. On est déjà passé aux travaux pratiques et c'est c'est beaucoup plus complexe que ce discours d'investiture.
Alors justement, on y vient au fond, parce qu'il y a beaucoup de discours, de papiers, de déclarations pour dire, au-delà du cérémonial des décrets qui ont été signés et arborés fièrement devant micros et caméras du monde entier, que restera-t-il finalement à terme de tout cela ? Est-ce que la justice, qui est déjà sur beaucoup de coups, va invalider certains de ces décrets ? Est-ce que les grandes entreprises vont faire de la résistance et va-t-il être rattrapé par une décision, par une réalité économique qui vont faire que tout cela sera inopérant ? Il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là, Denis. Voilà. Est-ce qu'on est un petit peu dans le mirage là, des décrets, des premiers décrets finalement ?
Trump, c'est un narratif de l'Amérique qui gagne. Donc pour l'instant, ce qui l'intéressait pour être élu, et dans un premier temps, c'est de faire en sorte que tout un peuple se mette derrière lui sur l'idée de dire l'Amérique se portait déjà plutôt pas mal, même si c'est contrasté, on pourrait passer des heures à débattre. Mais grosso modo, on va devenir, sans aucune contestation possible, la méga superpuissance du monde et on va prendre un coup d'accélérateur qui va nous mettre un temps d'avance sur la Terre entière. Bon. Et ça, c'est un narratif auquel un Américain, culturellement, adhère. Et aujourd'hui, si autant de démocrates qui votaient démocrates avant ont voté pour Trump, c'est parce que ce narratif leur parle, au-delà de toute considération politique ou idéologique. Donc, il est sur cette posture, il avance des trucs. Après, on sait très bien que Trump, c'est sa façon de faire. Il dit, bon, au final, je vous aurais pas augmenté les droits de douane, mais pourquoi ? Bah, parce qu'ils ont cédé sur ce que je leur demandais. Donc, il demande beaucoup, il sait qu'il aura quelque chose, et ce qu'il veut, c'est rapporter des scalps, des têtes à la population en disant, oui, ils ont cédé, c'est nous le chef.
Je prends
c'est
deux, trois exemples précis. Drill, baby drill, voilà, aujourd'hui. Comment est-ce que vous justifiez, je sais plus comment il appelle ça, l'urgence énergétique, quand vous avez un prix de l'essence qui est au plus bas depuis 2022 ? Comment est-ce que vous pouvez vous affranchir de ce qu'a voté le Congrès en termes d'allègement sur la transition énergétique ? On est sur un paquet de 300 milliards de dollars. Voilà. Mmh. Il y a la théorie et la pratique, Ben Aouda, dans cette histoire.
Alors, la théorie a été théorisée par le Scott Bessent, son secrétaire au Trésor, dans sa règle de 3. 3 fois 3, 3% de déficit public, 3% de taux de croissance économique et 3 millions de barils jour supplémentaires. On est à 13,4 millions de barils jour au pic. Donc il veut passer à 16,5 millions de barils jour. Mais l'idée, c'est créer une dynamique énergétique qui emporte tout sur son passage pour pouvoir, d'une certaine manière, financer tout son projet, d'une part, et d'autre part, contraindre l'OPEP+, à augmenter la production pour baisser les cours, bien au-delà des cours actuels.
Vous avez vu la réponse de Poutine aujourd'hui à Trump, qui disait je vais faire plier l'Ukraine, la Russie sur l'Ukraine en baissant le prix du baril. Poutine qui lui dit mais ça sera mauvais aussi bien pour Moscou que pour Washington. Voilà.
Alors, il a pour lui le fait que l'Arabie Saoudite lui tend la main. Vous avez vu le fonds souverain, le PIF, qui a signé pour 600 milliards de dollars. Alors, ces jours-ci, on entend des centaines de milliards de dollars. Bon, après, on verra, on fera les comptes réels. Par exemple, là, on a dans le sonore, on a entendu qu'il allait récolter des milliers de milliards de dollars. Mmh. Juste pour rappel, l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis, c'est 300 milliards de dollars. L'excédent commercial de l'Union européenne avec les États-Unis, c'est 150 milliards de dollars. Donc, à moins de mettre des taux de douane à 300%, on ne voit pas comment il peut avoir 1 000 milliards de dollars de rentrée de ce point de vue-là. Donc, c'est de ce point de vue-là une forme de rouleau compresseur de milliers de milliards de dollars qui servent aussi à montrer qu'il y a une dynamique. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement le cas, il y a une dynamique. Il se mêle d'absolument tout. Je donnerai juste un exemple incroyable. Le Royaume-Uni et l'île Maurice étaient en négociation très avancée pour céder la souveraineté des îles Chagos, donc la base de Diego Garcia en plein milieu de l'océan Indien, à l'île Maurice pour la restituer. Et Londres a dit stop, 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 il faut qu'on ait d'abord le hockey de Donald Trump. Donc c'est vous dire s'il met son nez partout, même là où on ne lui a pas demandé et où personne ne lui a dit de mettre son nez.
Daniele, comment est-ce que vous voyez l'ensemble de ces premiers décrets dont je parlais? Voilà, la justice, les lobbies, les cabinets d'avocats sont déjà sur beaucoup de dossiers. Qu'est-ce qui va rester tout ça?
Derrière,
je parlais du pétrole, parlais des aides à la transition énergétique, des sommes votées par le Congrès américain.
Mais je crois que derrière...
L'industrie automobile qui va se rebiffer parce que tout ça est très mauvais. Voilà.
À propos d'automobile, d'énergie, derrière à beaucoup de ces questions, il y a peut-être un visage, c'est celui qu'on n'a pas encore évoqué, Elon Musk. Il y a en fait la question qu'il symbolise, à savoir celle de l'avance technologique. On voit bien qu'aujourd'hui, par rapport à beaucoup d'investitures du passé, là, cette question de l'avance technologique des États-Unis par rapport notamment à la Chine a pris vraiment le devant de la scène. Et bien sûr, quand on parle de financer cette poussée en fait en avant, sans que finalement on sache très bien quels sont véritablement les horizons, mais il faut en fait aller en avant, on dirait presque la conquête d'une certaine manière du Ouest, il faut bien évidemment avoir l'énergie, et tout cela en fait est énormément énergivore.
Grégor, qu'est-ce qu'on dit chez vous de ces premiers jours en Allemagne de Donald Trump?
Déjà...
C'est plus de décret, voilà, qui a été le gros lasso.
Bien sûr, comme j'ai dit avant, tout ce qu'il a fait au niveau de la politique intérieure nationale, c'était de plus ou moins attendu. Je pense qu'il y a un peu d'espoir parce qu'il a, dans son discours d'investiture, pas concrètement mentionné l'Europe pour les droits de douane. Il a parlé du Mexique, il a parlé du Canada. Et derrière, je pense, pour comprendre Trump, il faut voir tout ça dans une logique de faire un deal.
Oui.
Tout ça, ça
parlera de l'Allemagne. On parle de l'Europe dans un instant, bien sûr. Voilà la réponse de l'Europe. Ça. Mais, il n'a pas dégainé sur les droits de douane pour l'instant.
Ouais. Mmh. Les deals avec la Chine, l'île Maurice, l'Union européenne, mais les deals avec sa justice, comment il va faire? Un juge fédéral a mis en cause sa décision de retirer la nationalité à des enfants nés de parents clandestins immigrés.
Oui.
Amendement, 14e amendement de la Constitution américaine est clair, net et précis, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en droit en l'espèce, c'est que vous êtes né sur le sol américain, vous êtes américain. Et déjà, la justice fédérale croise le fer avec lui, on n'a pas terminé une semaine. Donc il va avoir effectivement des problèmes non, avec la justice, avec le Congrès, pour faire appliquer ce qu'il a promis au peuple américain. Et là, il est aussi peut-être déjà dans une phase où il va devoir se défendre avant d'attaquer.
Oui. Mmh. Denis, d'accord avec ça?
En fait, à nouveau, Trump, c'est un homme de communication. Donc, ce qu'il a compris, c'est qu'à part vous et moi sur ces plateaux, ou les 2%, et c'est dit sans arrogance, qui suivent, qui comparent, une information chasse l'autre, et pour la majorité des Américains, comme des Français et d'autres, en gros, ils retiennent un chiffre, ils retiennent une image, et en gros, même si c'est démenti par les faits, en réalité,
on retiendra surtout l'image, vous savez. Voilà.
On retiendra ce qui restera. J'ai signé.
Comme ça.
Je veux dire, c'est quand même la perfection absolue en termes de communication. Ce type maîtrise absolument tous les codes. Oui. Donc, on est quand même très peu, comme il y a très peu de riches sur Terre, il y a aussi très peu de gens qui suivent l'information et qui essayent de comparer sur le temps. Donc ça, il l'a bien compris. Et la deuxième chose, c'est que faut pas oublier qu'on a Musk derrière. Et Musk, c'est Twitter, enfin X. Et ce qu'ils vont faire maintenant, c'est dire, la justice résiste à la décision du peuple américain, et il va montrer des têtes, il va montrer des images, il va dire ces gens-là résistent à ce que vous avez décidé.
Il va se poser en victime d'entrée de jeu, la victimisation.
Il y a des gens qui ont quitté leur poste avant qu'il arrive, alors qu'ils n'en avaient aucune obligation, parce qu'ils ne veulent pas être en conflit avec Trump. Donc il y a des gens qui vont plier avant même qu'on les ait fait plier.
Benahouda, pour oui, là-dessus. Mmh.
Peut-être que les 2% comprennent, mais les 98%, lorsqu'ils verront le taux d'inflation, le taux de croissance, le taux de chômage, ils comprendront. Un seul point, un modèle de Alliance Red, il prévoit d'expulser 500 000 immigrés clandestins par an. Ipso facto, ça fera descendre la croissance potentielle des États-Unis sous la barre des 2%. En gros, les États-Unis deviendront comme l'Union européenne, c'est-à-dire un petit moteur. Et de là, tout le discours sur l'élan, sur l'énergie, etc., sera détruit parce que vous aurez
avec Trump qui a commencé.
Je suis pas vraiment certain de ça. En fait, parce que les démocrates ont voulu essayer de, je suis désolé du terme, influencer le niveau des élections en ayant un record absolu de régularisation de sans-papiers et d'importation massive d'immigrants. Donc même si on baisse de 500 000, on part pas du même chiffre qu'avant. on parle de 3,5 millions de gens. Et pour moi, quand vous vivez à New York aujourd'hui, avant, les immigrés, on voyait bien qu'ils étaient intégrés, qu'ils avaient un job. Là, ils sont dans le métro, ils sont dans la rue, ils commettent des attentats. Moi, j'ai 3 attentats en 3 semaines en bas de mon immeuble, et c'est à chaque fois des immigrants. Ils n'ont pas de job, donc ils ne sont pas. Ouais, ils sont pas intégrés dans la société. Donc aujourd'hui, l'économie, même sur le service, même sur les petits jobs de livreurs, n'est pas capable de les intégrer comme avant.
Allez, 18h27.
Donc, je pense pas que ce soit
un si grand problème. On revient dans 3 minutes. L'Europe, justement, on va regarder un petit peu, revenir dans le rétroviseur sur ce que nous a dit Ursula von der Leyen en début de semaine du côté de Davos. Il y a pas mal de choses, de messages un petit peu sibyllins dans ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne, mais on vous dirait ce que vous en pensez, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières.
Allez, 18h31, on est de retour. 18h31 avec nos experts sans frontières, Daniele Zappala, Grégor Wachinski, Denis Jacquet, Benaoud Abdedaïm, bien sûr. Alors l'Europe qui a réagi. Alors on a vu autant on a vu un Justin Trudeau très net, bah, sur le départ évidemment, mais dire que en cas de nouveau droit de douane, le Canada répliquerait œil pour œil, dent pour dent. Autant on a eu en début de semaine, alors c'était à Davos, vous savez, le discours d'Ursula von der Leyen, relativement avenant vis-à-vis de Trump, qu'elle n'a d'ailleurs pas cité, ce qui lui vaut, vous savez, des procès depuis très longtemps, trop timoré, trop atlantiste, peut-être un peu trop allemande, voilà, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est perçu comme ça. Écoutez, Ursula von der Leyen qui a dit, en tout cas, nous sommes prêts au dialogue, c'était en début de semaine à Davos.
Our first priority.
Notre priorité absolue consistera donc à engager le dialogue sans attendre, à examiner quels sont nos intérêts communs et à nous préparer à la négociation. Nous nous montrerons pragmatiques, mais nous ne renoncerons pas à nos principes pour protéger nos intérêts et défendre nos valeurs. C'est la méthode européenne.
Because that is the European way.
Voilà, c'est la méthode européenne. Et il y a eu tout au long de ce discours, dans sa voix, la volonté de, en fait, d'écrire plus ou moins implicitement tout ce que l'Europe était et que l'Amérique de Trump n'était pas. C'est-à-dire, si je fais le verbatim très, très, très rapidement, défense des accords de Paris, nous continuerons de coopérer avec toutes les nations. Appel lancé à tous les déçus du protectionnisme américain. Nous sommes prêts au dialogue. Il n'y a pas de faux semblants avec nous. Nous respectons les règles du jeu. Nos accords ne cachent rien. Nous souhaitons voir les économies locales prospérer dans les pays partenaires. C'est une espèce de contre-modèle qu'elle essaye d'instaurer, Daniele Zappala.
Et on peut se demander, en fait, l'Europe a-t-elle véritablement le choix? Pourrait-elle s'aligner, en fait, derrière, finalement, avec Trump? Cela serait, finalement, c'est régner complètement. On voit que l'Europe, ces dernières années, quand même, a essayé, avec beaucoup de difficultés, de devenir un peu la championne un peu du multilatéralisme. Oui. Là, bien évidemment, on se retrouve en face en fait, à un personnage tonitruant qui voudrait tout écraser, qui dit les Green Deal, finalement, c'est l'arnaque, etc. Donc là, vous voyez, l'Europe n'a pas trop les choix, c'est un peu dos au mur, mais ensuite, on voyait dans l'intervention de von der Leyen aussi l'image d'une Europe un peu au milieu du gué, qui attend bien évidemment à l'issue des élections en Allemagne, qui attend que voilà, une récomposition des équilibres politiques puisse se faire, car en ce moment, on est dans le rôle de l'observateur.
C'est le contre-modèle du modèle belliqueux à la façon Trump. Est-ce que ça peut marcher, fédérer les déçus du protectionnisme de la politique de Trump? Est-ce que ça peut marcher, tout simplement,
Oui,
Grégoire?
Ça c'est la grande question. Ou est-ce que l'Europe a le pouvoir de faire marcher encore ce modèle? Parce que si l'Europe est le seul continent qui joue encore le jeu du multilatéralisme, ça va être difficile.
Il y a eu un appel du pied à la Chine qui n'est pas passé inaperçu dans son discours.
Parce qu'il y a beaucoup de Trump en ce moment, mais on pourrait dire la même chose de la Chine. Et donc, il y a vraiment à la fois cette volonté de garder un peu cet ancien monde, aussi d'engager dans des négociations avec les États-Unis. Mais derrière, on va voir ça aussi la semaine prochaine avec les propositions pour plus se compléter. Oui. Pour plus se compléter. En Europe, il y a vraiment cette compréhension qu'il faut faire un sursaut européen pour la compétitivité, pour vraiment aussi durcir peut-être notre position dans le commerce international. Je pense que l'Europe n'a pas d'autre choix.
Il y a deux façons de voir ce discours. Se dire c'est un discours pusillanime, soit se dire effectivement c'est un discours pour instaurer un contre-modèle et essayer de fédérer. On disait, il y a un verbatim très, très explicite, il y a la reprise des discussions avec pas mal de pays, le Canada, l'Australie, les Philippines, l'Indonésie, des pays d'Afrique, von der Leyen qui va aller en Inde, notamment au début du printemps prochain.
L'accord de libre-échange avec le Mexique.
L'accord de libre-échange avec le Mexique aussi, oui.
Le premier avec le Canada, les droits de douane.
Et puis on discute avec la Suisse, oui. Est-ce qu'on peut instaurer un contre-modèle finalement à l'européenne face à Trump?
Je sais que ça va être difficile à entendre, mais l'Union européenne, c'est un marché de 450 millions de consommateurs solvables.
Oui.
Solvables. Et qui pèse 16 000 milliards de dollars de PIB. Donc, le haut trésor américain, je parle des hauts fonctionnaires, au commerce extérieur, ils en sont parfaitement conscients. Donc, faire semblant de se trouver un nouveau modèle en 48 heures serait pire que de s'aligner. Ou... Donc, de ce point de vue-là, ce qui reste à attendre, c'est qu'effectivement, il y a un nouveau moteur. Et ce nouveau moteur ne peut provenir que d'une seule nation. C'est l'Allemagne. Donc, tant que les élections n'ont pas eu lieu en Allemagne, tant qu'il n'y a pas une nouvelle coalition, tant que le prochain ou la prochaine chancelière en Allemagne, probablement le prochain chancelier, n'est pas en place, vous ne pouvez pas mettre en place un contre-modèle qui soit entendu du monde entier, que ce soit à Pékin ou Washington. Et,
une façon de fuir un peu ces difficultés à vous entendre,
oui,
finalement.
Oui, et somme toute, la présidente de la Commission européenne ne représente qu'une ambassadrice et certainement pas le moteur politique possible.
Oui. Denis Jacquet, croyez au contre-modèle européen, vous, ou pas?
En fait, mais je pense qu'on oublie assez.
En fédérant les anti-Trump, ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est comme dans une élection, je veux dire.
On oublie. On oublie trop rapidement, mais c'est le désagrément d'avoir des technocrates qui dirigent cette Europe plutôt que des gens réalistes. C'est que l'éthique, les valeurs, ça nourrit pas les populations. L'éthique, les valeurs, ça remplit pas le compte en banque des gens à la fin du mois. L'éthique, les valeurs, ça crée pas une domination économique mondiale. C'est une satisfaction intellectuelle. C'est un objectif. En soi, ça serait tellement beau, j'en serais. J'aimerais tant qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. Bah oui, on aimerait tous qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde, mais à un moment donné, c'est comme un modèle social, ça s'achète. Et donc, pour que ça s'achète, il faut que ça marche. Donc, pour qu'on puisse être social, il faut être économiquement viable et on ne l'est pas. Donc, moi, l'Europe, si elle fait partie de. Si ce qu'elle estime comme valeur et technique, c'est quand j'ai une fusion de deux sociétés qui sont trop grosses à l'échelle de l'Europe et que je l'interdis, si c'est ça ses valeurs, ce n'est pas les miennes. Si c'est une Europe qui découvre en 2024 à Davos par Ursula von der Leyen, la main que je ne supporte pas, l'intelligence artificielle, il faudrait peut-être qu'on s'en occupe. Si l'Europe, c'est une Europe qui a un retard technologique de 6 à 8 fois sur la Chine et les États-Unis, moi, ce modèle de l'Europe ne m'intéresse pas parce que c'est un module, c'est une machine à claque et c'est une machine à perdre, au-delà d'avoir des têtes à claque à leur direction. Donc, moi, j'aime beaucoup le modèle européen, l'idée de l'Europe à l'origine, mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une réalité virtuelle.
Benouda.
On sent effectivement un début d'alignement qui est clair et net, poussé par un certain nombre d'anciens chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne, et dont le secrétaire général de l'OTAN qui a été Premier ministre pendant plus de 15 ans, je crois, des Pays-Bas, oui. Qui dit qu'ils font en clair...
Mark Rutte, oui, voilà.
Mark Rutte, qui font en clair renoncer au système social européen, donc à la retraite, à l'assurance santé, à l'assurance chômage, pour s'aligner sur la demande américaine qui est de consacrer 5% du produit intérieur brut à la défense. Donc il y a déjà certains Européens qui sont prêts à lâcher pour agréer les États-Unis qui, eux, ne veulent pas entendre parler de changement de modèle européen. Ils veulent que les Européens cessent de faire, année après année, des dizaines et des dizaines de milliards de dollars d'excédent commercial sur eux. Parce que dans un certain nombre de domaines, la mécanique, machine-outil, produits pharmaceutiques, produits agroalimentaires, c'est l'Union européenne qui dame le pion aux États-Unis.
Oui, et l'Allemagne notamment, Grégoire Wachinski, ce qui vaudra peut-être plus de désagréments de la part des Américains que pour d'autres pays européens, la France notamment, pour ne pas la citer.
Tout à fait, mais il faut dire aussi que dans le domaine des services, il y a un déficit commercial avec les États-Unis de l'Europe. Donc,
déficit américain vis-à-vis de l'États-Unis concentré sur quatre pays, France, Allemagne, Italie, divers et variés, on le sait évidemment, fiscal.
Voilà. Et donc là, juste pour compléter encore, c'est quand même assez difficile de repenser ou de penser un modèle ou un contre-modèle européen si on était tellement divisé. Et là, je ne parle que de Orban ou de Meloni qui sont peut-être plus proches de Trump, mais aussi parce qu'il y a une forte différence entre la France et l'Allemagne au niveau de la politique commerciale.
Oui.
On l'a bien vu avec le Mercosur. Donc, est-ce qu'on va vraiment projeter notre pouvoir européen à travers des accords libre-échange ou pas ?
Daniele.
Ben là, il y a une claire question aujourd'hui d'influence. Quelle sera en fait l'influence de l'Europe et après en fait cette séquence où les États-Unis, bien évidemment, avec cette tempête de déclarations d'action, essaient de tout chambouler, c'est les chamboule tout. Eh bien, je pense qu'il faudrait en fait qu'à Bruxelles, il y ait en fait cette conviction que certains paris, par exemple celui des énergies vertes, de l'économie verte, ont véritablement de l'avenir. Et là, il faut y aller à fond. Bien sûr, on parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais en fait, personne ne nous dit que les marchés verts, finalement, ne vont pas dominer l'économie de demain. Et encore, rien n'est dit. Et là, bien sûr, il y a cette question de la jonction de l'Europe avec les autres
grandes locomotives. D'où peut venir cette impulsion si elle ne vient pas de Bruxelles, si elle vient des États? Comme est-ce qu'elle vient d'Allemagne, est-ce que ça peut venir d'Italie, je ne sais pas, est-ce que Madame Meloni est prête à porter cette voix, voilà, on a l'impression puisqu'on a l'impression que c'est elle
aujourd'hui,
avec Orban dans une moindre mesure la principale interlocutrice de Trump aujourd'hui.
C'est qu'aujourd'hui, véritablement les grands risques pour l'Europe est celui de la division, c'est d'ailleurs en fait les buts quasi déclarés de Donald Trump, et les véritables dangers pour l'Europe ce n'est pas les droits des douanes, c'est véritablement de sortir complètement et fissuré, pour ne pas dire complètement en fait voilà, comme après un tremblement de terre, de cette séquence.
Dites-nous un mot peut-être de la relation Meloni-Trump aujourd'hui. Voilà,
c'est une relation, à mon sens, qui est sur plusieurs niveaux. Il y a bien évidemment l'affinité idéologique qui est indéniable, mais il y a aussi cette vieille tentative qui est classique de la politique extérieure de l'Italie, de en quelque sorte s'appuyer sur les États-Unis pour avoir plus d'influence sur la scène européenne. Et là, en fait, Meloni essaye clairement de en fait imposer ce que même les entrepreneurs avec l'ère trilatérale en fait les trois grandes confédérations d'entrepreneurs font depuis 6 ans, et sortir peut-être de ces modèles en fait tandem ou moteur franco-allemand pour se dire bon, il y a en fait aussi une Italie ou d'autres pays qui ont de la créativité. N'oublions pas que l'Italie au niveau du commerce extérieur, on en parle beaucoup, c'est le seul pays en fait de la scène internationale à avoir conserver parmi les grands pays sa part des marchés dans les exportations mondiales.
C'est vrai,
5%
c'est vrai.
Il y a 10 ans.
Quatrième exportateur mondial aujourd'hui,
alors que
l'Italie. Absolument.
L'Allemagne et la France, etc., sont en baisse. Donc c'est vrai qu'il faut sortir peut-être aussi de ces clivages, et je pense que c'est le message que Mme Meloni veut surtout lancer.
En complément de ce que vient de dire Daniele, cette semaine, donc Bidata, qui est une société de données technologiques de Shenzhen en Chine, a sorti une analyse très fine des papiers scientifiques, des articles académiques publiés par les revues académiques scientifiques les deux plus hauts niveaux. La Chine est passée dans les États-Unis. Il y a un déclin franco-allemand, mais il y a un bassin de scientifiques de très haut niveau italien qui remonte, et de façon unique à l'échelle européenne. Donc de ce point de vue-là, il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe en Italie qui est peu perçu ici.
18h43, on revient dans une minute. Le dossier russo-ukrainien. Trump avait une idée, mais Poutine l'a remis sur le droit chemin aujourd'hui. Et puis on dira un mot des élections en Allemagne, Grégoire, parce qu'on est à un mois maintenant, moins un jour du scrutin législatif en Allemagne, évidemment. À tout de suite.
Les experts sans frontières sur BFM Business.
À 18h45, encore un petit quart d'heure avec nos experts Daniele Zappala, Grégoire Wachinski, Denis Jacquet, Benaouda Abdedaïm. Alors Trump, qui avait une idée hier, qu'il a exposée lors de sa visio au Forum du Davos pour faire plier la Russie sur le dossier ukrainien, c'est de faire baisser le prix du pétrole. C'est ce qu'il a dit en tout cas hier. Écoutez Donald Trump en visio depuis la Suisse.
J'ai lu aujourd'hui dans les journaux que l'Arabie Saoudite allait investir 600 milliards de dollars dans notre économie. Je vais demander au prince, un mec fantastique, d'arrondir à 1000 milliards. Après tout, on les a tant aidés par le passé. Et on va demander à l'OPEP de baisser le prix du baril. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas fait à l'annonce de mon élection. La baisse du prix du pétrole mettra un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Avec la baisse des prix, il y aura aussi une baisse des taux d'intérêt au niveau mondial.
Voilà, Trump hier et Poutine qui dit aujourd'hui, donc une baisse du prix du baril serait mauvaise pour Moscou, certes, mais aussi pour Washington par ricochet. Voilà. Mais Poutine qui dit aussi qu'il est prêt à discuter avec oui. avec Trump et qui disent si Donald Trump avait été président en 2022, on aurait probablement évité le conflit en Ukraine. Voilà. Dans l'intervalle, on est passé de 24-48 heures pour résoudre le conflit à une centaine de jours. De rien, Denis Jacquet.
Il y a quand même un. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, peut-être que vous l'avez, mais sur les avoirs des oligarques russes gelés dans le monde, ou les avoirs tout simplement de la Russie gelés dans le monde, je veux dire, il a quand même, si demain il veut vraiment négocier, bon, tu veux récupérer tes X centaines de milliards et on met fin à cette guerre qui, de toute façon, s'enlise des deux côtés et est très mauvaise pour tout le monde, qui aurait dû être stoppée depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il a quelques arguments pour mettre fin à cette guerre. C'était quand même un de ses engagements assez forts en disant... je vais mettre fin à tout ça. Donc, il a pu dire que déjà, sur le conflit Gaza, etc., au moins, il y a un stop et dans lequel il a quand même assez largement participé. Donc, ça va quand même être un des points sur lequel il peut pas complètement perdre la face. Et je pense que Poutine, à un moment donné, a assez aussi intérêt. Puis, Zelensky avait commencé à dire, bon, en gros, il y a 20% de territoire. Donc, pour l'instant, on va les mettre sur pause. On ne sait pas où ils seront, par qui ils sont administrés. Mais c'est temporaire et on y reviendra. Donc, en gros, j'accepte déjà de les perdre. Donc, normalement, tout le monde est à peu près en état, de mettre fin à ce conflit qui est juste une hérésie totale au sein de l'Europe.
On est passé de 24 à 48 heures, mais évidemment, ça, personne, absolument personne n'y croyait pour se fixer un objectif de 100 jours désormais.
Oui, et si c'était vraiment l'objectif 24 ou 48 heures, le premier voyage du chef de la diplomatie Marco Rubio ne serait pas pour l'Amérique centrale, le Panama, Guatemala et Salvador, mais aurait été pour Moscou. Donc de ce point de vue-là, il y a déjà l'idée qu'il va falloir attendre, premier point. Et mais ce qui est quand même marquant, c'est qu'un certain nombre d'experts chinois des relations internationales commencent à redouter qu'il y ait une forme de compromis. D'ailleurs, c'est clair, si Vladimir Poutine dit s'il avait été là en 2022, il a très bien compris à qui il avait affaire. Au personnage qui voulait être flatté en tant que génie de la stratégie. Et donc, l'idée, c'est que ces experts chinois, pardon, pour revenir à mon propos, redoutent qu'il y ait une forme de compromis russo-américain et qui amènerait les États-Unis à se sentir suffisamment puissants pour pouvoir tenter de tordre le bras aux Chinois. Ensuite, parce qu'ils auraient avec eux, d'une certaine manière, à leur côté, la puissance russe. Et ça, les Chinois n'en veulent pas. Donc, c'est peut-être aussi le calcul de l'administration Trump de se dire, on règle le problème russe d'une manière ou d'une autre, quitte à effacer quelques milliers de kilomètres carrés du territoire ukrainien qui irait à la Russie. Mais après, on pourrait, en position de force, nous tourner face à la Chine.
Daniel, un mot là-dessus.
Bah, disons que c'est une vision, celle de Trump, qui quand même peut être définie simpliste. Bien sûr, il y a l'économie, il y a les pétroles, l'énergie qui est souvent les nerfs de la guerre. Il y a aussi tout un arrière-fond géopolitique et en fait d'imaginaire en fait de la Russie, la grande Russie, etc., qui remonte quand même à il y a quelques siècles. Donc c'est vrai que bien sûr on peut parler de la diplomatie en fait et la compter en semaines, mais la véritable question de fond c'est celle en fait de l'espace d'influence de Moscou. Et là c'est pour ça que la question des 5% du PIB est une véritable question. Et d'ailleurs, pas mal d'observateurs, même en Italie, partout en Europe, l'avouent. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas véritablement prête à considérer cette possibilité d'une Ukraine dans les girons de l'OTAN.
J'avance un peu. On va vous interroger sur une fois 5-6 minutes, Grégor. Donc, je voudrais qu'on parle avec vous suffisamment de l'Allemagne. Donc, on est à un mois des élections. Ça sera le 23 février prochain. Ça sera dans un mois. Alors, dans les sondages qu'on voit ces temps-ci, c'est une légère remontée des Verts, de l'AFD et un petit tassement de la CDU et du SPD. Écoutez Friedrich Merz qui est passé à Davos cette semaine également, dont on sent bien qu'il est parti à la chasse aux voix du côté de l'AFD puisqu'il ne voit toujours et encore que par l'industrie. L'industrie est toujours industrie. Écoutez Friedrich Merz.
The German economy is lacking behind our potential.
L'économie allemande est loin de son potentiel depuis des années maintenant, pas seulement depuis 2021 et l'arrivée du gouvernement actuel au pouvoir. Nous devons surmonter nos déficits et surtout compenser le manque de compétitivité de notre industrie. D'après moi, la clé se trouve dans l'industrie manufacturière allemande. La clé n'est pas dans les services ou la tech, c'est bien l'industrie. Elle représente toujours un quart de notre PIB, un quart de notre force. c'est la colonne vertébrale de notre économie.
Voilà, Freddy Schmerz, candidat de la CDU. Ça s'appelle aller à la pêche aux voix, ça, très clairement, Grégoire, ou pas Merz, là.
Oui, bien sûr que Merz, il a commencé sa campagne électorale vraiment sur les sujets économiques aussi, parce qu'on a cette crise en Allemagne, on a eu deux années de récession de suite. Oui. Les prévisions pour cette année sont assez sombres aussi. Ce n'est pas exclu d'enchaîner 3 ans de récession en Allemagne. Par contre, c'est une campagne électorale assez fluide. Cette semaine, cet attentat... une attaque à couteau a vraiment changé la donne, parce que ce sont vraiment des questions de migration, de sécurité qui sont en première ligne maintenant. Et comme c'était aussi un enfant de 2 ans parmi les victimes, ça a vraiment émotionnalisé le débat et tout ça pourrait encore faire monter l'AFD.
Dans un mois, cette élection, la question est de savoir quelle coalition peut émerger. C'est une question plus que jamais sans réponse, Ben Aouda, désormais. Hein,
Le potentiel futur chancelier allemand a dit qu'il comptait serrer la vis très sérieusement, effectivement, après cette attaque en Bavière, du point de vue migratoire, qu'il peut y avoir des textes votés avec l'AFD. Il peut pas concevoir de coalition, et s'il reste à 30 voire 29 ou 28%, il sera contraint de former une coalition large avec non seulement les sociodémocrates mais aussi voire avec les Verts. Et donc de ce point de vue là comment effectivement, pour reprendre votre terme, la fluidité de cette campagne, comment concilier tout cela, ça va être extrêmement difficile. Un dernier point, et je parle sous le contrôle de notre confrère du Handelsblatt, la semaine prochaine il y a une manifestation d'une centaine de fédérations patronales allemandes pour dire ça suffit, trop c'est trop, on ne peut pas aller vers une troisième année de récession, il faut tout revoir, droit social, la réglementation, etc., pour aller de l'avant, sinon on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a vraiment une situation qui va de mal en pis.
C'est une coalition introuvable.
C'est une coalition introuvable dans le sens que déjà ce n'est pas sûr si on aura un Parlement, un Bundestag à 4 partis ou à 7 partis, parce qu'il y a trois petits partis qui frôlent plus ou moins la barre des 5%. Ce sont les libéraux, les Christian Lindner, ce sont les post-communistes et ce sont le BSW, c'est un peu le côté mélanchoniste allemand, je dirais. Donc,
il peut plus y avoir des
ça fait une grande différence
entre la CDU
si on a
CDU et les partisans de Lindner. Peut plus y avoir de terrain d'entente.
Entre Lindner et CDU, bien sûr, mais il n'aura vraisemblablement pas de majorité. Après, le discours de Friedrich Merz hier sur l'immigration, il a fixé tellement de lignes rouges que c'est impensable qu'après il va trouver un accord de coalition avec les Verts, par exemple. Et ce qui est vraiment intéressant, il a aussi pas exclu de déjà introduire la semaine prochaine dans le Parlement une motion pour durcir les règles d'immigration. Et il a dit, ou il a au moins laissé entendre, pour lui, ça ne serait pas grave si l'AFD, donc l'extrême droite, voterait ça aussi. Donc on voit déjà ce mur pare-feu, donc notre front républicain, en fait, s'écrouler un petit peu.
Ça laisse présager des négociations qui vont être très très lourdes et longues, qui vont s'espacer dans
le temps. Oui, c'est pour ça que certains qui se concentraient sur le frein à l'endettement, c'est-à-dire... Oui. Maintenant, on a l'impression que c'est une question secondaire. Même le président de la Bundesbank a dit cette semaine qu'il est prêt à évoluer sur ce point, ce qui paraissait il y a encore 2-3 semaines inconcevable. Ils sont prêts à revoir l'aspect budgétaire de cette campagne. Mais effectivement, sur la question de l'immigration clandestine et du droit d'asile, là, on va vraiment vers une partition politique extrêmement importante, à l'image de ce qu'on a vu en Autriche.
Bien. Campagne dans un mois, les choses sont-elles figées ? Friedrich Merz reste-t-il le candidat favori absolu à ce stade pour vous ? Est-ce que
Je pense que c'est quasiment sûr Friedrich Merz sera le prochain chancelier. Par contre, dans quelle coalition, dans quelle configuration politique, je n'ose même pas faire une prévision. Même si si ça marche pour les social-démocrates et le parti de Merz, les conservateurs, il y aura une grande coalition.
Ouais.
Par contre, ça c'est loin d'être sûr qu'on aura une majorité pour ces deux parties dans le prochain Bundestag.
Personne ne se risquera à faire la moindre prévision. Même je crois qu'à la veille du 5 novembre, personne ne se risquait à faire la moindre prévision du côté des États-Unis.
Ouais, c'est une situation un peu à l'italienne.
Ouais. Peut-être
que d'ici là, on aura un produit à exporter qui s'appelle François Bayrou et qui sera inoccupé, on ne sait jamais.
Peut-être, on verra. Voilà, ça fera partie du grand casting. Voilà. Les intérêts divergent. Merci messieurs d'être venus. En tout cas, c'est terminé pour ce soir. Daniel Zappala, le quotidien Avenir, et Grégor Wachinski, le journal Handelsblatt à Paris. Denis Jacquet, entrepreneur, président du mouvement Day One. Bon retour aux États-Unis, pour bientôt.
Demain.
Demain. Bon retour. Et Benaoud Abdedaïm, notre éditorialiste international. L'envers du globe, bien sûr, la newsletter internationale de Benaouda. Vous vous inscrivez sur bfmbusiness.com ou vous flashez le petit QR code, bien sûr, qui s'affiche sur votre écran si vous nous suivez à la télévision. Merci beaucoup, messieurs. À très vite pour de nouvelles aventures. 18h56, je vous redonne les grands titres de l'actualité dans un instant, car il sera 19h dans 3 minutes sur BFM Business. À tout de suite.
Les experts sans frontières sur BFM Business.